Eh bien, salut à tous, salut Baptiste, et de nouveau dans un épisode de Parlons Dev. Bientôt, un podcast qui ne va plus être seulement tech, mais on va parler d'actualité, une chaîne d'information, faire concurrence à BFM TV, car aujourd'hui, dans cet épisode principalement, on va parler de Panda CSS. Alors pourquoi je parle d'actualité? Car c'est un sujet qui fait un peu controverse sur la twittosphère. Je sais pas si c'est un terme à la X-sphère du coup. De toute façon, twittosphère, c'est un peu bien vieux, ça
Sur
se tient, ça
LinkedIn
sort de nulle
aussi,
part, mais.
sur la LinkedIn
Ah oui,
Sphere.
ouais, LinkedIn, ah oui. Mon Dieu. Mais donc, il s'agit bien de Panda CSS, dont avait parlé donc T3.GG, Théo, dans une de ses vidéos, d'une review, d'un article qu'il avait fait, enfin d'une newsletter même, que tu avais écrit, Baptiste.
C'est exact.
Et donc, c'était une opportunité de visibilité tout à fait méritée, que tu as totalement prise, et c'est tout à fait légitime. Donc, je pense qu'on va un peu aborder ce sujet-là, mais. Voilà, c'était pour introduire Panda CSS que tu apprécies particulièrement. Mais avant ça, comment vas-tu, Baptiste? Quels sont tes petits sujets du moment ou qu'est-ce qui te fait vibrer?
Bah écoute, ça va bien. Je sais pas si on a trop le droit d'en parler, mais j'ai occupé mes derniers jours à monter une vidéo spéciale de Parlons Dev qui sortira, je ne sais pas si avant ou après cet épisode-là, mais une vidéo un peu concept où avec Paul, nous avons retrouvé deux de nos amis développeurs et nous avons essayé de modéliser des objets réels avec de l'HTML et du CSS et avec plus ou moins de réussite pour
Ah oui,
certains.
surtout moins de notre côté, en tout cas ce qui nous concerne ici.
Oui,
Surtout si tu mets vraiment que le premier exercice, en tout cas. Enfin bref, c'était vraiment une histoire de tester un peu
nos invités
ce
étaient bien
format,
meilleurs
quoi.
que nous sur le format qu'on leur a proposé.
Voilà, donc en vanilla HTML CSS, c'est 0 sur 20, en tout cas, me concernant. Mais ça sera l'occasion d'en refaire un et de prouver que voilà, on sait apprendre aussi.
Le crew de Parlons Dev n'est pas si nul que ça.
Voilà, il faudra redorer l'honneur, quoi. Ça, on verra quand est-ce que ça sort et sous quel format exactement. Mais oui, en effet, c'est vrai qu'on attendait ça récemment. C'était bien sympa. Bah, c'est cool.
Nous
Et c'est
avons tous
tout.
les deux
Tu n'as
utilisé
rien.
Panda CSS d'ailleurs pour faire
Alors,
styliser nos
c'est
trucs.
vrai. Plus exactement le playground me concernant, de nouveau. J'ai jamais réellement usé de Panda CSS en conditions réelles, quoi. Soit d'entreprise, soit de projet long terme, on va dire. Dans cet exercice, les seules choses dont j'ai tiré, c'était la méthode CSS et peut-être 2-3 hooks pour faire, pour prédisposer des styles tels que center, etc.
Oui, ce qui
Je sais
s'appelle
pas
des
trop.
patterns avec PandasSS.
Patterns, voilà, c'est ça.
Yes.
Donc, comment tu veux t'organiser, mon cher Baptiste? On commence directement dans le vif du sujet, à savoir qu'est-ce que Panda CSS?
Oui.
Ou tu nous trouves une transition toute amenée? Plus
Ah,
relative à notre
la
cher.
transition, tu l'as dit, c'est qu'est-ce que
Voilà.
PandasSS pour ceux qui ne savent pas mais qui nous écoutent quand même. Eh ben, PandasSS, si je peux commencer. C'est une solution de styling assez récente. C'est du CSS in JS. Donc pour rappeler ce qu'est le CSS in JS, c'est le fait de styliser donc ces éléments directement avec le markup dans des fonctions, souvent comme style components, faut appeler des fonctions pour créer des composants, ce genre de choses. Avec PandaCSS, la base, c'est une fonction CSS qui prend un objet comme paramètre. Et dans cet objet, on définit toutes les propriétés CSS qu'on veut définir, comme c'est pas la font size, la couleur du texte, etc. Et l'avantage de cette fonction CSS, le premier en tout cas, c'est que cette fonction est type safe. Elle utilise des types forts de TypeScript, ce qui permet donc de n'être sûr qu'uniquement des propriétés connues sont spécifiées, mais surtout que des valeurs uniquement valides sont précisés pour par exemple la couleur. PandaCSS vient avec une configuration de base avec des couleurs dans le preset comme Tailwind CSS le fait, par exemple Red 400, ce genre de choses-là. Donc la fonction CSS permet d'autocompléter et de s'assurer que seules des couleurs, des valeurs connues sont utilisées. Voilà une des
D'accord.
spécificités.
Et à savoir que cette configuration aussi est dynamique, c'est-à-dire que le typage est aussi adaptable à ta configuration interne de Panda CSS,
Oui,
sauf erreur.
c'est très important à préciser, c'est que effectivement, PandaCSS est fait pour être configurable et la configurabilité n'altère en rien la type safety. Donc si tu viens définir d'autres couleurs ou même supprimer celle du preset de base, tu peux tout à fait. Et donc ça, c'est l'avantage principal de Pandas CSS par rapport à d'autres solutions CSS in JS. Le deuxième, qu'il faut mentionner tout de suite après, parce qu'il est vraiment, il va de pair avec Pandas CSS et la Type Safety, c'est le fait que ce soit une solution CSS in JS build time. Par exemple, Style Components est une solution CSS in JS uniquement disponible au runtime. C'est-à-dire que les styles sont créés dans le navigateur quand le JavaScript a été chargé et a été exécuté. Pandas CSS, au contraire, utilise un style, un static extractor pour analyser tous les styles d'une application et déterminer, comme le fait Tailwind CSS, ça analyse le code, ça comprend quel style générer, et derrière ça génère du CSS qui peut être utilisé dans n'importe quel environnement, que ce soit Astro avec du côté serveur, ou même dans une application Vite qui fonctionne avec React que runtime, quoi. Voilà.
En fait, Pandas CSS, c'est vraiment une dev dependencies quasiment.
T'entends quoi par ça?
C'est-à-dire que techniquement, quand tu as buildé ton truc, ton projet il est agnostique du fait qu'il ait été buildé par Pandas CSS. C'est du CSS overall quoi. Après, j'imagine qu'il y a quand même un utilitaire Pandas CSS qui existe au runtime. Je ne sais pour quelle raison. Je ne sais pas si ça te parle, mais.
C'est effectivement une caractéristique assez importante de Pandas CSS. C'est que si on compare avec Tailwind CSS, qui lui pour le coup n'est présent qu'au build time, Tailwind CSS marche de cette façon-là. Le just-in-time, le JIT, analyse l'intégralité de la codebase et essaye de déterminer quelles classes sont utilisées. Donc pour ça, ça fait vraiment un match sur des strings exacts. Ça regarde si la classe BG Red 400 est présente ou pas. Si elle est présente, ça génère le CSS correspondant. Mais au runtime, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que c'est que des classes. Et il y a des cas d'usage auxquels on est plus vite confronté que prévu, comme par exemple le fait de créer des composants avec des variants. J'entends par là par exemple un composant badge. On veut pouvoir définir un composant badge de type, je sais pas, error, success, warning, avec des couleurs différentes. Et pour faire ça, le meilleur pattern qui soit, pour ne pas avoir à créer soi-même plein de petits, enfin, du code pas forcément très maintenable et un peu arbitraire, quoi. C'est chacun qui fait sa propre tambouille à chaque fois dans chaque projet. Un pattern assez utilisé, c'est le class variance authority. Donc l'idée, c'est de définir tous les types de variants avec les styles de base et chaque variant pouvant redéfinir des styles. Par exemple, mon alerte, je sais qu'il y aura toujours du padding horizontal, du padding vertical, sauf que les couleurs changent selon le variant. Donc quand c'est du error, ça va être rouge, quand c'est du success, ça va être du vert. Et le class variance authority, ce principe-là, permet de définir ça d'une meilleure manière. Et donc pour relier Tailwind et Panda, Tailwind ne le supporte pas out of the box, parce que ça nécessite du JS au runtime. Il y a des plugins qu'on peut mettre en plus, mais c'est pas du Tailwind natif. À l'inverse, Panda CSS supporte ça out of the box. Voilà.
D'accord. C'est vrai qu'avec Tailwind, on pourrait entendre certains détracteurs, et ce qui est tout à fait légitime, dire que, en effet, la type safety, l'autocomplétion qu'on peut retrouver chez Panda dans l'IDE, enfin tout ce qui va être le confort de développement pour n'importe quel développeur, existe en réalité aussi, avec plein d'add-ons disponibles sur la marketplace de différents IDE, tels que le prettier ou tout ce qui va être autocomplete de classe, voire même sorting. Tu déclares un peu tes classes à la volée dans ton class name ou peu importe, et tu fais un petit save et ça te fait un format et ça te remet tout dans un ordre déterministique, ce qui évite les collisions ou des race conditions à l'instanciation de si jamais tu fais des class name dynamiques.
Ou travail en équipe, si par exemple je fais je reprends le travail dans un composant de quelqu'un et qu'en fait il n'avait pas les bons outils pour Tailwind pour ordonner les classes, si moi je l'ai, ça va le modifier automatiquement et c'est pas terrible.
Tout à fait.
Je préfère dans l'APR avoir juste les changements nécessaires. Là, c'est
des sources de conflits.
Oui, ça complexifie.
Comme plein d'autres existent en réalité, hein, mais tout comme le format des imports, etc., on a toujours tous eu des PR où en fait la personne est passée sur plein de fichiers, elle fait des petits saves, mais en réalité, fait un git add all ou peu importe à un moment donné. Et on se retrouve avec une PR qui a une dizaine de fichiers alors que fondamentalement il n'y en a que trois qui ont vraiment muté et qui nécessitent une review. Donc ça, c'est des problèmes de commit lint, peu importe. Il y a plein, ça peut se situer à plusieurs degrés, mais c'est sûr que c'est une surcharge de ces outils-là. Donc la plus-value aussi là-dedans, en tout cas dans un travail d'équipe, je trouve avec PandasCSS, c'est cette centralisation et le fait que bon bah c'est on installe PandasCSS et puis voilà quoi.
C'est
On
ça.
est prêt à travailler en équipe là-dessus s'il faut, c'est type, c'est fait, ça c'est cool quoi. Ça rentre dans
L'outil apporte
ça.
vraiment énormément de sous-outils, si je puis dire. C'est que PandasCSS, c'est vraiment une trousse à outils avec plein de choses à l'intérieur pour faire plein de choses différentes. Donc il y a cet aspect styling, vraiment juste mettre une couleur ou un background sur un élément. Il y a aussi la partie Class Variance Authority qui est implémentée de base. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin sur
CVA, c'est ça, hein?
CVA, ouais,
Enfin,
absolument, c'est
l'acronyme, ouais.
l'acronyme, absolument. Et le CVA est même poussé un peu plus loin avec la notion de SVA, c'est Slot Variance Authority. La différence, c'est que c'est
D'accord.
pour représenter plusieurs sous-parties d'un composant avec le même CVA. Et l'intérêt, par exemple, si je prends un cas pratique, si je reprends mon badge, dans mon badge, j'ai effectivement le conteneur, mais j'ai aussi le titre, j'ai aussi le texte secondaire, ce genre de choses, peut-être une icône. Et toutes ces choses-là, ce sont des sous-composants de mon composant badge, enfin pardon, alerte. Et
Ouais.
l'intérêt des SVA, c'est de définir tout ça au même endroit, parce que tu veux que ces choses-là changent en même temps que tout le reste. Par exemple, la couleur du texte principal et la couleur du texte secondaire doivent changer toujours en même temps, selon la variance. Si mon app badge, enfin, pardon, si mon composant alerte il est en error, tous les textes vont changer. Donc l'intérêt du SVA, c'est de tout grouper, tout ce qui peut changer en même temps, au même endroit. C'est l'intérêt, même si ça complexifie un peu le code, et je sais que certaines personnes n'aiment pas.
Si j'essaie de reformuler, ça veut dire en gros, tu peux synchroniser plusieurs CVA dans un SVA, c'est ça?
C'est tout à fait ça. Et pour montrer un peu plus l'intérêt, parce que dit comme ça, c'est
Ouais.
peut-être pas très évident, mais l'intérêt, c'est que parfois, des variants, par exemple, je sais pas, la couleur et la taille, et bien ces variants peuvent être combinés pour certaines propriétés. Si par exemple, je veux que selon la couleur et selon la taille, j'applique un padding différent, et bien je dois faire une combinaison de ces deux variants. Donc c'est pas seulement les variants couleur et les variants taille qui sont gérés séparément, c'est aussi les variants couleur et taille qui sont gérés conjointement et pour faire un genre de produit cartésien où selon les deux entrées, j'ai un résultat différent. Donc ça, le CVA le supporte
D'accord.
et c'est d'autant plus vrai pour les SVA où tu veux que selon des variants qui sont composés et selon les sous-parties de ton composant, tu veux appliquer des styles différents. Donc l'intérêt du SVA, c'est pour pousser ce genre de choses plus loin et ne pas être limité par l'outil. Voilà. Et faire du
D'accord.
code. Enfin, l'idée, c'est vraiment tout ce qui peut changer en même temps doit être localisé au même endroit. C'est un peu ce principe fondamental.
Et le principe de class variance authority, mais aussi, enfin, je veux dire, c'est des paradigmes qui s'appliquent pas qu'à PandaCSS, non?
Ah, tout à fait, c'est des choses qui ont été créées avant PandaCSS. CVA, Class Variance Authority, c'est même le nom d'une librairie qui est utilisable avec plein de solutions, Tailwind CSS, du
Oui,
CSS natif.
ce que je vois.
Donc voilà, c'est devenu un pattern utilisé par pas mal de solutions de styling.
Mais donc, c'est-à-dire que là, demain, j'ai envie de faire du CVA sur Tailwind, je peux pas le faire nativement. Il faudrait que j'ai quand même une intégration un peu custom ou que j'utilise un outil qui me permette de le faire de manière très idiomatique. Cependant, avec PandaCSS, du coup, il existe vraiment un helper, enfin, je sais pas, un pattern. Ça s'appelle aussi un pattern?
Ça s'appelle pas, c'est pas un pattern parce qu'un pattern avec PandaCSS, c'est une fonction qui wrap la fonction CSS. C'est en gros,
D'accord.
tu appelles la fonction CSS, mais avec des valeurs par défaut. C'est l'idée du pattern. Donc avec PandaCSS, il y a plein de patterns pour implémenter des layouts assez communs, comme par exemple une grille, un composant
Une quoi,
flex,
pardon?
une grille
Ah oui.
CSS.
Ok, une grid.
Une grid ou je sais pas faire d'un élément un rond, ce genre de choses. C'est des patterns qui sont implémentés avec PandasCSS. Et encore une fois, si vous avez des besoins spécifiques sur votre projet, PandasSS étant configurable, permet aussi de créer ses propres patterns qui sont ensuite disponibles partout dans l'application.
Voilà. D'accord. Et si tu devais, très rapidement ou grossièrement, peu importe, mais me donner plus ou moins les principaux keywords de PandasCSS qui font ce que tu consommeras le plus dans ton application, imaginons voilà du coup les patterns. Est-ce qu'il existe d'autres principes vraiment fondamentaux à l'outil?
À titre très personnel, j'ai pas utilisé PandasCSS encore pendant un an. C'est un outil que j'ai utilisé depuis 2 mois maintenant, je pense.
Ouais.
Majoritairement, on utilise la fonction CSS. C'est vraiment la base. C'est pour à chaque fois qu'on veut styliser quelque chose, fonction CSS. Les patterns, je m'en sers aussi pas mal. Par exemple, pour faire du flex ou du grid. Ça, je m'en sers pas mal. Sinon, CVA. Voilà, c'est vraiment les 3 choses que j'ai utilisées principalement jusque-là pour mes petits besoins. Et encore le CVA, comme j'ai pas fait beaucoup de composants réutilisables, c'est surtout pour des composants réutilisables, hein, le CVA. C'est, je sais pas, pour un bouton, pour un badge, tout ça, qui sont utilisés à plein d'endroits de l'application. Ça permet de le faire très correctement et d'avoir du code qui soit facile à changer et facile à lire. Parce que pour revenir très rapidement au SVA, même si c'est pas la fonctionnalité principale de PandasCSS, c'est vraiment quelque chose d'un peu niche, l'intérêt principal du SVA, c'est que quand on définit des composants complexes avec des sous-composants, si on veut faire cette idée de style qui sont définis par rapport à plusieurs variants, à la combinaison de plusieurs variants, on arrive avec du code compliqué à maintenir, parce que c'est dans des composants très nested qu'on vient faire ces checks sur la combinaison des variants. Là, avec la définition du SVA, on a vraiment une API qui est normalisée pour faire ça, et c'est facile de comprendre comment les choses sont définies et de les changer ensuite. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus, c'est important de mentionner.
En fait, ça centralise vraiment le style.
Ça centralise le style.
Tu le sors de ta vue.
C'est ça. Tu le sors de ta vue. Tu sors tous les styles qui sont susceptibles de changer. Donc, c'est pas obligé de faire, de définir dans son SVA l'intégralité de ces styles. Mais c'est toutes les choses principales, on peut les mettre dedans. Voilà. Tout ce qui doit être changé peut facilement l'être grâce au SVA. Mais vraiment, je veux pas passer plus de temps là-dessus que.
Oui, non, c'est intéressant.
C'est... D'accord. Fonctionnalité un peu avancée.
Niche à... voilà. Après, le souhait de faire des components très génériques pour tendre vers un design système, c'est toujours une bonne chose. Quoi.
Yes.
Et c'est sûr que lorsqu'on vient faire propagation de propriétés un peu alambiquée avec 10 000 booléens qui permettent d'afficher plus ou moins du style dynamique dans une arborescence de components, ça devient vite infernal. Alors que si tu as un seul entry point qui est en fait quel est l'état stylistique et fonctionnel qui en découle de mon ensemble d'applications, enfin de mon ensemble de components, c'est tout de suite beaucoup plus déjà compréhensible pour le développeur, mais maintenable parce que on ne fait plus évoluer un élément de style sur une condition, mais sur un état global de toute l'interface de ce qu'on voit. Après, ça semble logique et ça me choque pas venant de toi. C'est plus ou moins la même plus-value côté fonctionnel que je peux retrouver à Xstate, qui est d'exporter ta logique en dehors de ton component. Et la seule chose que tu viens faire dans ton component, c'est interagir et transpiler l'état de ta machine et exposer bien sûr son API entre très gros guillemets, à savoir quelles actions je vais pouvoir persévérer là-dedans. Persévérer, non, persister plutôt. Même si persévérer est une bonne chose. Et je sais pas si t'as entendu parler, enfin je suis sûr que oui, mais de StyleX, et qui est aussi, sauf erreur, une solution CSS NGS qui a été donc, je crois, développée par Facebook, en tout cas qui fait runner le style sur Facebook actuellement. D'ailleurs, première question, j'ai aucune idée, je sais pas si toi non plus, je veux pas te prendre au dépourvu, mais sais-tu si c'est aussi compatible server-side rendering ou server-side component?
Les avantages sont les mêmes, c'est vraiment de faire du CSS NGS qui soit run au build time. L'API est très différente de PandasCSS, elle se rapproche énormément de ce qu'on fait avec React Native, et comme avec Paul, on a tous les deux développé sur une application React Native dans un cadre pour un projet scolaire. On peut en parler. Et avec React Native, la façon dont on définit les styles, c'est avec un namespace style sheet qui permet de créer des styles avec pareil une autocomplétion pour les noms et pour les pas pour les valeurs, mais pour les noms. Donc c'est vraiment une fonction qui prend un objet en paramètre, on définit chaque propriété, font size, color, etc. Mais l'idée de StyleX, c'est d'avoir le même genre d'API, et donc il n'y a pas de CVA, il n'y a pas de SVA, contrairement à PandasSS. C'est d'avoir quelque chose de très simple, et j'ai cru comprendre avec très peu de configuration. C'est-à-dire que contrairement à PandasSS, c'est pas configurable au même point. Voilà. Après, j'ai pas vraiment d'avis donné péjoratif ou amélioratif.
Non, bah, de toute façon, c'est jamais ni blanc ni noir, hein. C'est jamais si simple. Hein.
C'est vrai.
Mais d'accord. C'était pour avoir une idée. Parce que c'est vrai que c'est les deux choses qui font un peu parler, et c'est quand deux débutants ou deux ignorants parlent de ces deux sujets, ce qui coupe assez court en général, c'est non, mais moi je vais plutôt m'intéresser à ce que fait Facebook. Parce que c'est plus durable, plus machin, ce que j'entends, hein, surtout dans le monde d'entreprise. Mais c'est dommage de parfois s'arrêter à des a priori comme ça. Et à savoir qu'il y a plein de technos qui sortent de l'open source, enfin quasiment toutes, et qui sont ensuite maintenues et onboardées par des plus grosses boîtes. Ouais.
Absolument. Et puis, si Facebook développe ça en interne, c'est pour aussi ses propres besoins. Après, c'est très bien qu'il l'open source, mais c'est comme React. Initialement, c'était fait pour les besoins interne de Facebook, pas besoin d'utiliser React pour chaque projet sur lequel on bosse, quoi. C'est pour faire une landing page.
Non, voilà. C'est sûr. Bon, ça encore, c'est un autre débat, mais je suis d'accord avec ça.
Moi, je préfère sortir le Spring Boot. Je trouve ça plus adapté.
Ouais, ma foi. Tu me diras, pour ta landing page, pourquoi
bah ouais,
pas.
Hein. Pourquoi pas. Faut juste avoir deux DevOps pour le maintenir, mais...
Oh, le mec. Et ça, c'est un autre sujet aussi. Moi, je réfléchis toujours, dès que je vois une techno un peu comme ça, c'est d'une certaine manière une certaine forme de crédibilité, mais concrètement, ces nouvelles technos-là, c'est super pour onboarder de nouveaux projets, commencer de nouvelles choses, etc. Mmh. C'est le moment de se faire plaisir, etc. Et moi, je me demande si toi, je sais pas, tu conseillerais, l'idée, c'est pas de conseiller, mais comment tu imaginerais une migration, alors, sans trop non plus anticiper, c'est-à-dire peu importe si ça vient de Tailwind, si ça vient d'une solution native, d'un SaaS ou peu importe, vers une utilisation de Panda CSS. Est-ce que c'est quelque chose que tu conçois? Est-ce que tu vois vraiment une plus-value dans l'immédiat de... Ou plutôt tu dirais non, mais c'est vraiment un truc qu'il faut faire de from scratch?
Concernant ça, je pense qu'il est possible de faire n'importe quelle migration. Après, le coût est toujours calculé. Et voilà, ça dépend vraiment d'où on part, quoi. Si j'avais une application avec Tailwind CSS, pas sûr que je la migrerais sur Panda, parce que les avantages sont quand même similaires. J'ai pas un avantage de performance, par exemple, à partir sur du Panda CSS, quoi. Si, par contre, j'étais sur du Style Components, avec un très gros site et pas mal de pages qui mettent du temps à charger parce que j'ai beaucoup de styles qui sont compute en JavaScript dans le navigateur, je peux comprendre que l'avantage de passer sur Panda CSS serait plus présent. Voilà, mais, si j'ai pas vraiment d'expérience dans la migration du Panda CSS, mais par contre un outil que j'ai utilisé, parce que je suis l'heureux détenteur de Tailwind UI, le kit de composants de Tailwind Labs, la boîte qui développe Tailwind CSS, et j'utilise Tailwind UI pour chacun de mes projets avec Tailwind CSS. Ça fait des années que je ne développe qu'avec Panda CSS, qu'avec Tailwind CSS pour pour mes projets. Perso, side project et même pour mes clients. Mais donc j'utilise Tailwind UI pour la grande majorité de mes projets. Et Alexandre Stamer, qui est le co-créateur de Panda CSS, a créé des outils pour passer par exemple de Tailwind vers Panda, de Style Components vers Panda. Il a créé des playgrounds et sûrement utilisables aussi en CLI pour faire des migrations à plus haute échelle.
Ah d'accord.
Des outils qui prennent donc du Tailwind CSS et qui transposent ça vers du Panda. Après, la fiabilité, par exemple, tu prends ton code JSX avec des classes Tailwind et ça te génère la même chose avec du Panda. Donc, à la place du class name qui est un string, t'as la fonction CSS, quoi.
D'accord. Après, du coup, tu perds la granularité de la configuration globale. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si t'as vraiment une intégration custom de par ta configuration, tu peux pas n'importe quel outil de CodeGen ne pourra pas l'anticiper. Sauf s'il accepte en input la configuration, techniquement. Ça dépend du niveau de granularité du truc, mais
ça me paraît.
Mais c'est typiquement la question que je me. Mais ouais, d'accord.
Mais
Non, c'est stylé.
dans l'idée, je pense que ta configuration Tailwind CSS, tu peux la migrer vers du Pandas sans trop de soucis, parce que les deux outils sont configurables, contrairement à du
Ouais.
StyleX. L'idée, c'est que tu puisses configurer toutes tes couleurs, tous tes tokens de spacing, par exemple, je sais pas, du PX4, PX6. Derrière, si tu
Ouais.
veux utiliser la même valeur avec Pandas CSS, qui n'est pas forcément vrai, c'est-à-dire qu'avec Pandas CSS, on peut aussi mettre un PX 2 points, entre guillemets, 4, mais comme ça, je ne saurais pas dire si c'est exactement la même valeur que Tailwind. Mais si jamais vous avez besoin de ce genre de choses pour migrer de Tailwind à Pandas, c'est tout à fait possible. La configuration est là pour ça. Voilà.
D'accord. Ah, donc ça, il y a quand même des outils de transpilation qui existent.
Oui. Après, la
En tout cas, qui...
fiabilité toujours
Oui,
est
c'est comme tout, mais
dépendante.
c'est...
Parce que
Mais ça casse... Je
pour
sais
parler
pas,
d'un
vas-y.
cas précis que j'ai eu, c'est que par exemple, il y a des choses qui n'existent pas avec Pandas CSS. Tailwind, par exemple, a cette notion de ring pour mettre un genre de outline autour de ses éléments. Sauf que ça n'utilise pas la propriété outline. Ça utilise je crois que ça utilise le pseudo-élément after pour positionner. Alors là, c'est à confirmer, hein. Vraiment, je peux dire n'importe quoi. Mais l'idée, c'est que ça n'utilise pas outline. Ça utilise une autre propriété pour définir le ring autour d'un bouton. Et Pandas CSS n'a pas ce support natif, ça supporte Outline. Après, je pense que ce serait quelque chose à coder soi-même dans la configuration ou ailleurs pour ajouter cette notion avec Pandas CSS, mais out of the box, la migration Tailwind UI vers du Panda ne prend pas ça en compte à l'heure actuelle. Donc je dois faire les changements à la main. J'ai pas
D'accord.
trop de solution parfaite à recommander, mais
Tu
voilà.
t'as parlé de transpilation Tailwind UI versus vers.
Pour certains éléments qui sont disponibles avec Tailwind mais pas avec Panda, ça,
Oui, d'accord, c'est ça.
voilà, c'est ça.
Okay. Non, mais je croyais qu'il avait vraiment fait une copie de la librairie Tailwind UI
Ah non,
en Panda. Non.
c'est moi mon use
Oui,
case pour ça.
d'accord.
C'est j'ai des composants Tailwind UI que je vais utiliser dans mon code. Je veux migrer ça vers du Panda, donc je le passe dans l'outil Playground.
D'accord. Mais donc t'en as eu d'utilité et c'est quelque chose que tu utilises pour quand même accélérer tes devs entre guillemets
Ah
quoi.
oui, je. Même si c'est pas parfait comme résultat, c'est comme ChatGPT.
Ouais.
Je préfère avoir quelque chose qui me fait la base,
Ouais.
même si c'est pas parfait et que je termine, quoi.
Clairement.
Voilà.
Diamant brut. D'accord. Et je sais pas si tu veux revenir un peu aussi sur du coup la vidéo de Théo,
Ouais.
sur les différents points qui ont pu être évoqués pendant ceux qui l'ont pas vu.
Ouais.
Il y en a,
Je sais
mais
pas si
c'est
tout le monde
vachement
connaît
connu.
Théo, même si c'est un. Il est pas mal présent sur la tech, enfin pardon, sur la scène tech Twitter et sur YouTube.
Et YouTube. Même Twitch en réalité, hein.
Oui, il fait des lives énormes.
Il est un peu partout.
Mais c'est un content creator qui parle beaucoup de tech, qui fait pas mal de reviews d'articles ou de projets qui sortent. Et en l'occurrence, j'ai sorti une newsletter sur PandasCSS où j'expliquais ce que j'ai trouvé comme avantage à PandasCSS, c'est que je comparais avec Tailwind. Mon article a eu plus de succès que prévu. J'ai été notamment featured dans la newsletter This Week in React de Sébastien Lorbier, newsletter assez connu dans le monde de React et de React Native. Et pas à partir de ça, Théo a remarqué mon article. Il en a fait une vidéo de réaction. Il a tourné ça, il l'a sorti. J'ai fait ma vidéo de réaction, parce que dans sa vidéo, il m'incitait à répondre en fait à
Réponse.
ces éléments. Donc j'ai enregistré ma réponse en sélectionnant quelques points de critique, parce que Théo était un peu critique envers PandasCSS, il n'était pas convaincu par tout. Il préférait aussi un petit peu l'API de StyleX plus simple et plus restreinte. Donc j'ai. Comme il a fait pas mal de critiques qui sont souvent faites par des gens qui découvrent PandasCSS, j'ai essayé de faire d'une pierre deux coups. Donc de faire un peu une vidéo de réponse à ceux qui testent PandasCSS ou qui lisent la documentation et qui ne sont pas convaincus par tout. Voilà. Ma vidéo a été
D'accord.
pas mal vue, bon, par rapport à mes stats habituelles. Moi, je suis à l'heure actuelle à 1700 vues. Et soit un peu plus de 70 likes, c'est pas.
Bravo, félicitations.
Je suis
En vrai,
pas
non, c'est stylé, hein.
Mister
Ça, c'est cool.
Beast, mais voilà.
Hein.
Voilà.
Mister Beast de la tech. En tout cas, ça c'est sûr, tu es une bête de tech.
La
C'est
belle et
pas
la
d'inquiétude.
bête. La belle est en
Ouais.
PandaCSS.
Ah, tu es la belle alors. Ou alors, je sais pas, ou je sais pas où si tu t'es haut. Je sais pas s'il y a un antagoniste dans La Belle et la Bête, mais.
M'en souviens plus.
Mais rien ne t'empêchera de pratiquer du panda CSS. J'en ai aucun doute.
Yes. Et toi, peut-être Paul, dis-nous un peu quel est ton avis sur PandaCSS de ce que tu as pu en voir.
Alors, mon avis est que bah, tout ce qui est strictement typé, bah, ça me plaît, par nature, en tout cas. Après, bon, enfin, c'est un avis. C'est plus sur le ton de la rigolade que je dis ça. J'ai pas d'avis concret quant à l'utilisation de nouveau en temps réel sur un vrai projet de PandaCSS. C'est pas quelque chose qui me choque en tout cas. C'est des trucs que j'avais, enfin, c'est pas que j'avais déjà vu, mais c'est vrai que j'avais fait un peu de side component, etc. Et je préfère toujours en réalité. Le CSS NGS m'a toujours plus attiré que l'inverse. Même si Tailwind
Que
a
le JS
totalement.
in CSS.
JS, j'ai dit ça?
Non, t'as
Du
dit
CSS?
l'inverse du CSS in JS. C'est quoi l'inverse du CSS in JS?
Ah oui, d'accord. Non, non, bah. Du coup, c'est le inline, on va dire. Enfin, en tout cas,
Et qu'est-ce que
peu
tu penses
importe.
du fait d'écrire son CSS dans un fichier CSS? Ce qui est quand même la base.
Ah, bah ça fait bien longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Mais sache que ça arrive toujours. Après, techniquement, si tu travailles dans une codebase bien ficelée, avec. Enfin, après, tout dépend de. Sur quel projet t'arrives, s'il est jamboardé, si c'est du from scratch ou pas. Mais d'écrire du CSS vraiment très granulaire et très spécifique à chaque component avec beaucoup de duplication de style, etc. C'est bon quoi, ça va 5 minutes. Donc c'est ce qui arrive souvent lorsque tu fais du CSS dans des fichiers séparés ou lorsque tu arrives dans un projet qui a son fichier HTML, enfin par exemple si je parle d'Angular, son SSS, son .SSS, son .HTML et son .TS ou JavaScript, ça dépend. De si t'as un projet typé ou pas. C'est pas des choses qui, moi, m'attirent, en tout cas, ça c'est sûr. Donc, les outils comme PandaCSS ou d'autres, hein, il y en a plein. Enfin, je veux dire, Tailwind aussi, bon, je parle d'un ancien temps peut-être, mais en tout cas, c'est des trucs qui m'attirent beaucoup plus. Et PandaCSS en fait partie, et je ferai vraiment la main sur PandaCSS. Sans aucun doute, un de ces quatre. Mais j'ai pas d'avis, en tout cas, de toute façon, en règle générale, je ne tranche jamais, je suis un peu la Suisse sur ce genre de sujet. C'est idiot de dire non ou oui. Il y a des points forts, il y a des points faibles aussi. En tout cas, il y a des détracteurs et il faut toujours savoir écouter les avis négatifs comme positifs et savoir faire son choix en fonction, quoi. Il y a tout à chacun.
Yes. Bah écoutez, ceux qui nous ont écoutés pendant cet épisode, on les invite à tester PandaCSS d'eux-mêmes, même si...
Et aller voir ta vidéo réponse
Ouais.
à Théo, mais aussi d'aller voir la vidéo de Théo si vous l'avez pas fait, c'est intéressant.
Yes. C'est toujours intéressant d'entendre quelqu'un critiquer un outil
Avec plutôt
et
tendance.
d'essayer de mettre ça en perspective, quoi. Mais en tout cas,
Carrément.
je pars avec un a priori positif de votre part, si jamais vous... Tester PandaCSS, c'est un bon outil. On l'a pas dit encore, mais il est développé par la team de Chakra UI, qui ont développé Chakra, qui ont aussi développé ZackJS, ArcUI, et PandaCSS est en fait destiné à devenir la solution de styling des composants Chakra UI, qui pour l'instant utilise Emotion, CSS, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'idée, c'est à terme de remplacer ça par une solution. Build time, CSS in JS build time pour améliorer les performances.
Et aussi pour pouvoir les rendre plus facilement dans des serveurs components, etc. Non?
Absolument oui, c'est que
Ouais.
le gros intérêt de PandaCSS, c'est que c'est du JavaScript. Ça peut être utilisé aussi bien côté runtime avec du Vite et du React. Ça peut aussi être utilisé côté server side avec du Astro ou en mode hybride avec du Next, du Remix. Ça fonctionne bien. Voilà. Et par défaut.
Carrément. Trop. Nickel.
Yes.
Bah écoute, je te remercie Baptiste pour cette super présentation de cet outil qui te fait rougir.
Absolument.
Et puis c'est top. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve une prochaine fois pour d'autres sujets qui nous passionnent ou qui nous intéressent dans l'actualité, quoi.
Merci à tous, merci à toi, Paul. À bientôt.
Allez, ciao ciao.